Vous êtes sur RTL.
Il est 10h. Le journal de 10h avec vous, Yann Bouchery, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À la une, 66 ans après l'appel de l'abbé Pierre, son fondateur, Emmaüs sollicite la générosité des Français. L'institution a besoin très vite de 5 millions d'euros, vous entendrez son président dès le début du journal. Dans l'actualité aussi, des échauffourées hier soir à Villeneuve-la-Garenne en banlieue parisienne. Un jeune motard en infraction a tenté de s'enfuir lors d'un contrôle avant de se blesser à la jambe. Le calme est revenu vers 23h. Sur le front du coronavirus, situation moins tendue dans les hôpitaux avec une baisse notamment des patients en réanimation. Nous ferons le point dans la région Normandie. Point négatif en revanche, les annulations de rendez-vous sont nombreuses de la part des femmes enceintes. Illustration à la maternité de Lille. À l'étranger, le choc au Canada où les résidents d'une maison de retraite ont été abandonnés par le personnel. On déplore 31 morts et pas tous à cause du coronavirus. Et puis les sports et peut-être des masques pour reprendre le championnat de football. C'est l'une des possibilités évoquées en Belgique. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Pour une fois, il pleut au sud.
Oui, c'est vrai, on a beaucoup de pluie sur les régions du sud et ça va être le cas pratiquement toute la journée. Alors, pas des pluies en continu. Une première salve est partie des Pyrénées. Elle a déjà passé le Limousin, donc elle remonte quand même assez vite et concerne maintenant la région Poitou-Charentes. On a d'autres pluies en Méditerranée qui, elles, vont stagner à un bon moment quand même sur la région PACA. Finalement, ça restera très chargé et pluvieux sur une bonne moitié sud du pays. Des pluies quand même qui vont continuer de remonter au fil des heures. On va les retrouver vers les Pays de Loire et vers la Bretagne d'ici la fin de la journée. Côté soleil, rendez-vous dans le nord et dans le nord-est, où là, ce sera une belle journée ensoleillée dès que les derniers brouillards se seront dissipés. Des brouillards qui sont encore présents en Moselle ou encore en Champagne. Les températures, elles sont à peu près stables. 16 degrés attendus à Perpignan cet après-midi, 17 à Tarbes, 18 à Biarritz, 19 degrés pour Lille, Nantes, Toulouse, 21 à Quimper, 22 degrés à Paris et Lyon et 25 à Lons-le-Saunier.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Bouchery.
Jamais depuis 1954, Emmaüs n'avait appelé les Français à l'aide, mais cette fois, la situation l'exige. La crise du coronavirus a creusé les finances de l'institution, qui n'est pas sûre de pouvoir continuer à subvenir à ses besoins et accueillir les 20 000 personnes démunies qui comptent sur elle. Depuis le 17 mars, la collecte d'objets, la réparation et la remise en vente sont au point mort. L'urgence est donc vitale, selon Jean-François Maroutizac. Le directeur général d'Emmaüs était ce matin sur RTL.
Dans l'immédiat, ce que nous, on essaye de collecter, c'est 5 millions pour pouvoir effectivement passer le cap au moins sur les trésoreries et sur ce qui permettra en fait de continuer à accueillir les personnes qui sont dans les centres Emmaüs au quotidien. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, évidemment, je ne vous cache pas que ce qui n'est pas gagné actuellement, sur 2 à 3 mois, ça peut atteindre des sommes de 30 à 45 millions d'euros. Donc je ne vais pas attendre des Français et des Françaises ces sommes-là, mais dans l'immédiat, au moins avoir de quoi pouvoir assumer le quotidien des personnes qui sont encore chez nous. Donc il nous faut nous mobiliser, parce qu'il y a encore des Français qui ont besoin. Et je ne peux absolument pas me résigner à penser qu'Emmaüs, que l'abbé Pierre nous a légué, puisse éventuellement disparaître. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Jean-François Maroutizac, le directeur général d'Emmaüs, ce matin sur RTL. Vous pouvez donner via le site emmaüs-france.org. Ce matin, 170 000 euros avaient déjà été collectés. RTL 10h et 4 minutes, des tensions à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine hier soir. La situation a dégénéré entre un conducteur de deux roues et un véhicule de police. Le jeune motard aurait tenté de se soustraire au contrôle routier imposé par les forces de l'ordre, Alice Moreno.
Oui, le jeune homme roule apparemment à vive allure et sans casque hier soir dans les rues de Villeneuve, puis s'arrête à un feu rouge à hauteur d'un véhicule de police banalisé. Les fonctionnaires descendent de leur voiture pour le contrôler, mais d'après une source policière, le jeune motard tente de prendre la fuite, essaie même de renverser un des agents. Il percute la portière du véhicule de police, fait un vol plané, atterrit sur un poteau. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le jeune homme apparaît au sol, sa jambe désarticulée, ensanglantée. Il pousse des cris de douleur. Les policiers lui prodiguent des soins. Des riverains s'arrêtent, prennent les fonctionnaires à partie. « Vous allez payer », lance-t-il. Le dialogue est tendu et les badauds s'attroupent. Puis des tensions éclatent entre les forces de l'ordre engendré une cinquantaine de personnes avec quelques jets de projectiles, mais aucun blessé n'est à déplorer, aucune interpellation. Le calme est revenu un peu après 23h.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Nouvel exercice pédagogique pour Édouard Philippe. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse à 17h30 à Matignon, en compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran. Il devrait délivrer quelques pistes pour sortir du confinement. Il intervient alors que la situation s'améliore, puisque pour le 4e jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées a baissé et celui des patients en réanimation est aussi en recul depuis 10 jours. Le constat est à peu près uniforme au niveau national. Illustration ce matin en Normandie avec vous, Julien Caillard, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Dans cette région, on le rappelle, 267 personnes ont perdu la vie à l'hôpital, 146 dans les EHPAD. Malgré ces chiffres terribles, Julien, toutes les données montrent chez vous aussi une diminution de la circulation du virus.
Oui, il y a d'abord les personnes hospitalisées, 657. Ici, le nombre a baissé de plus de 4% au cours des trois derniers jours. Et puis, il y a ces patients placés en réanimation, 146 hier soir contre 167 mercredi soir. Ces données portent aujourd'hui l'espoir d'une amélioration, affirme l'Agence régionale de santé, d'autant que la Normandie désormais compte plus de patients guéris de retour à leur domicile que de personnes hospitalisées. Mais attention, la situation ici reste inquiétante. Dans les 388 EHPAD, 107 sont touchés par le virus. Le défi, c'est de dépister davantage. C'est pour cela que l'objectif est d'atteindre la barre des 3000 tests par jour dès la semaine prochaine. Et puis, l'autre défi dans ces établissements, c'est de combattre la solitude qui sape les corps. Des visites pourraient donc être autorisées de nouveau dans les prochains jours.
Et dans ce contexte, Julien, les gestes de solidarité se multiplient pour répondre notamment aux besoins des personnels soignants.
Des personnels qui manquent notamment désormais de surblouses. C'est particulièrement vrai en Normandie. Alors à Ouville-la-Rivière, près de Dieppe, la société PTL, spécialisée dans la fabrication d'emballages plastiques et bioplastiques, s'est lancée dans la confection de surblouses et de manchettes. Son PDG, Jean-François Gallet.
On a en fait mis en place des cycles complémentaires, c'est-à-dire qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand on en a parlé avec ne serait-ce que nos collaborateurs, etc., il y a eu un espèce d'élan de solidarité et de volontaires pour constituer des équipes supplémentaires. Ça fonctionne très très bien.
Et l'entreprise devrait être en mesure, dès la fin de semaine prochaine, de produire 12 à 14 millions de surblouses chaque mois.
Merci beaucoup Julien Caillard, correspondant de RTL en Normandie. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et le phénomène s'amplifie de jour en jour. Beaucoup de femmes enceintes annulent leur rendez-vous à l'hôpital par peur de la contamination. Évidemment, depuis le début de l'épidémie, les urgences gynécologiques ont vu leur visite divisée par deux. Antoine Decarne, vous l'avez vérifié à la maternité Jeanne de Flandre du CHU de Lille.
Cette crainte, Camille, enceinte depuis 7 mois, l'a ressentie au tout début de l'épidémie. Elle avait décidé de ne pas se rendre à une consultation.
J'avais peur de croiser des personnes qui étaient porteuses, en fait, d'être contaminées. On s'inquiète toujours de savoir ce qui peut se passer si on attrape le virus. Je préférais rester à la maison.
Comme Camille, c'est plus d'une patiente sur trois qui ne venait plus à l'hôpital au péril du suivi de la grossesse.
Elles prennent beaucoup plus de risques à ne pas faire suivre leur grossesse qu'à se déplacer dans les établissements de santé.
Le professeur Véronique Debarge est la responsable de la maternité Jeanne de Flandre. Face à la situation, elle a réorganisé toute la prise en charge des patientes.
On essaie de réunir les rendez-vous en même temps. Donc la patiente ne se déplace qu'une fois pour avoir sa consultation d'échographie, sa consultation prénatale. Et ensuite, on a mis en place les téléconsultations.
Et aujourd'hui, tous les circuits de la maternité sont dissociés de l'antenne Covid. Et cela a rassuré Camille.
Ça fonctionne super bien. Chacun respecte vraiment les horaires. Tous portent un masque. J'ai finalement plus de crainte à me rendre là-bas en fait.
Et ce suivi renforcé va perdurer dans le temps et ce, même après le déconfinement.
Le reportage d'Antoine Decarne pour RTL. Le rendez-vous politique de ce dimanche sur RTL, c'est bien sûr le grand jury RTL Le Figaro LCI. François Bayrou, le président du Modem, en sera l'invité à partir de midi. Une pause dans ce journal de 10 heures avant d'évoquer une maison de retraite de l'horreur au Canada. A tout de suite.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
10h et 10 minutes, l'actualité à l'étranger à présent avec tout d'abord cette histoire à peine croyable au Canada. Le pays doit lui aussi faire face à la pandémie du coronavirus. Eh bien, au Québec, une maison de retraite a subi une véritable hécatombe, 31 morts. Mais le Covid-19 n'est pas le seul responsable de cette situation qui a choqué toute la population, Alexis Gacon.
C'est épouvantable ce qui est arrivé à la résidence Aaron. Il y a de la grosse négligence.
Le premier ministre du Québec, François Legault, avait du mal à trouver les mots pour expliquer ce qui s'est passé à la maison de retraite Aaron en banlieue de Montréal. Après avoir découvert des premiers cas de coronavirus parmi ses pensionnaires, une grande partie du personnel de la résidence a déserté de peur de contracter la maladie. Alerté par les proches qui n'avaient pas de nouvelles, le Québec a envoyé des renforts et quand les médecins sont arrivés sur place, ils ont constaté l'horreur. Dans les chambres, les pensionnaires n'avaient pas été nourris, pas changé, ils n'avaient pas reçu leurs médicaments pour certains depuis plusieurs jours. D'autres étaient tombés et personne n'était là pour les relever. Sur la trentaine de victimes ce dernier mois à la résidence, 5 seraient liées au coronavirus. Depuis, des enquêtes policières sont en cours et le passé du propriétaire de cette chaîne de maisons de retraite a été révélé. Il est déjà passé par la case prison pour trafic de drogue et pour fraude. Au Québec, les hôpitaux ont tenu le choc face à la pandémie, mais la province a reconnu que les maisons de retraite étaient très mal préparées. À Montréal, près des 3/4 d'entre elles comptent des cas de coronavirus. Le Premier ministre Justin Trudeau a envoyé ce week-end l'armée à la rescousse pour faire face au manque de personnel dans les résidences pour personnes âgées.
Alexis Gacon, le correspondant de RTL au Canada. À l'étranger, toujours, l'Espagne va prolonger le confinement de sa population 2 semaines de plus, jusqu'au 9 mai inclus. Déclaration hier soir du Premier ministre Pedro Sanchez. Les sports et le football, et toujours énormément d'incertitudes sur les dates de reprise en Ligue 1 et Ligue 2. Et le casse-tête ne va pas s'arranger avec la prise de position de Rudy Garcia ce matin chez nos confrères de l'équipe. Selon le coach de l'OL, pas question de jouer tous les 3 jours, ni d'enchaîner directement avec la saison prochaine. Au moins 2 semaines de vacances sont réclamées. En Belgique non plus, pas de retour prévu pour le moment sur les pelouses. Les réunions s'enchaînent pour trouver la meilleure solution. L'une des hypothèses avancées serait de protéger les joueurs en les faisant jouer avec des masques, Sylvain Charlet.
Oui, Marc Van Rans était un épidémiologiste reconnu en Belgique, incontournable sur les plateaux de télévision. Celui que l'on surnomme en Flandre Monsieur Coronavirus a accepté en début de semaine de répondre aux questions du quotidien francophone le soir en s'improvisant expert du ballon. Pour lui, je le cite, le port d'un masque pour jouer au football est une piste à envisager. Sur internet, ajoute-t-il, on trouve des masques anti-pollution qui sont plus confortables que les masques chirurgicaux. Une proposition loin de convaincre Bichente Lissarassou, notre consultant football, invité hier soir de l'émission On refait le match.
Je me rappelle à l'époque, on jouait avec des espèces de trucs qui nous ouvraient les narines pour mieux respirer. Donc te mettre un masque, c'est plutôt le contraire là, tu vois. C'est difficile de respirer avec un masque. Déjà parler avec un masque en marchant, c'est difficile. Donc courir avec un masque, ça me paraît compliqué.
Bichente, sur la même longueur d'onde que le défenseur angevin Romain Thomas, interrogé par le journal L'Équipe, envisager une telle solution le met hors de lui. Vous rigolez, j'espère. Même faire un footing avec un masque, il n'y a qu'une personne qui n'a jamais couru qui peut imaginer ça. Le professeur Van Ranst relèvera peut-être ce défi.
La dernière histoire belge, signée Sylvain Charlet. Le foot chez les filles, Sarah Boisdy prend son envol. La gardienne de but internationale de Lyon a annoncé hier soir qu'elle allait quitter l'Olympique lyonnais. Avec l'OL, elle a remporté 10 fois le championnat, 7 Coupes de France et surtout 6 fois la Ligue des Champions. Et puis en rugby, c'est désormais officiel. Après sa parenthèse new-yorkaise, Mathieu Bastaro sera de retour à Lyon cet été. Il s'est engagé avec le Loup pour les 2 prochaines saisons. On termine avec le rendez-vous sport du soir. On refait le sport 19h30, 20h sur RTL. Et Isabelle Langer aura pour invité, s'il vous plaît, Laurent Jalabert et Nicolas Karabatic. RTL 10h et presque 14 minutes. Merci de votre fidélité. La musique arrive avec vous, Vincent Perrault.
Elle arrive avec moi, elle arrive chargée, intense, riche, enfin un beau programme en perspective.
Ouais, comme d'habitude.
Yann. Exactement. Et à les infos à 11h, évidemment.
Sans faute.
Avec vous.